Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport, le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Si vous avez raté les deux premières heures, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. On a parlé du salaire de Kylian Mbappé, des prétentions d'Arthur Fils qui veut gagner dans 5 ans un grand chelem. C'est notre nouveau tennisman, lui qui a 18 ans. Nous avons évoqué les qualifications de Formule 1 avec Red Bull. A-t-il déjà plié la saison, la pole position demain matin à 7h du matin pour le Grand Prix d'Australie pour Max Verstappen. Deuxième place pour George Russell. La troisième place pour Lewis Hamilton. Nos Français sont 9e et 11e. Et puis, il y avait un magnifique débat caché. Sur 10, vous donnez combien au débat caché là ce matin, Christophe Cessieux?
8.
Ah, merci Christophe, un bon 8.
Ah bah, si pour une fois qu'on fait du vélo.
Écoute, s'il avait eu lieu lundi, c'était 10. Le samedi, c'est 3.
C'est un bon 3 quand même.
C'est un bon 3.
David Douillet, on lui met combien au débat caché? David?
Il mange.
C'est caché.
Non. Oui.
David?
Oui.
Combien on lui met au débat caché sur 10?
2.
Ah, ça c'est les anciens du RP, hein, ça fracasse. Simon Dutin,
mettre un petit 5 d'encouragement.
Ok, parfait les copains, vous allez voir, je vais sortir les armes et l'artillerie lourde la semaine prochaine. Dans quelques instants, le bras de fer des GG, Lionel Messi fait-il encore rêver? Ce sera notre question. 11h30, les GG tout terrain, tous les samedis, le reportage de la rédaction des RMC, aujourd'hui plongé dans la culture flandrienne avant le Tour des Flandres. Demain, ce sera avec Arnaud Souk. Les artistes entrent dans l'arène. Depuis plusieurs jours, c'est le nouveau jeu à la mode. Où jouera Lionel Messi la saison prochaine? À Paris? Au Barça? À Miami? En Arabie Saoudite? Je le disais, à Bourg-en-Bresse, pourquoi pas, avec David Douillet. Le feuilleton s'est intensifié dès l'élimination du PSG en Ligue des Champions, à bientôt 36 ans. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport, va devoir trancher pour l'un des derniers gros contrats de sa carrière. Lionel Messi fait-il encore rêver? Dans le coin gauche, la team oui, il fait encore rêver. Simon Dutin, David Douillet. Dans le coin droit, la team non, il ne fait plus rêver. Christophe Cessieux, Stephen Brun, c'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et depuis ce matin, vous êtes extrêmement nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Je vous donne le résultat partiel dans quelques instants. Pour l'instant, il n'y a absolument pas débat. Avant de débattre, on va tout de même retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du PSG, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut à tous.
What's up, Fab?
Hi, Fab.
C'est vrai, en ce moment, à chaque jour, sa nouvelle rumeur.
Oui, l'avenir du septuple Ballon d'Or intéresse toute la planète foot. Il arrivera en fin de contrat en juin. Actuellement, il négocie avec le Paris Saint-Germain. On va y revenir. Mais Léo Messi, objet de toutes les convoitises, est envoyé aux quatre coins de la planète. Aux États-Unis d'abord, puisque l'été dernier, l'Inter Miami, la franchise de David Beckham, lui a fait les yeux doux. Ça continue. Une arrivée en MLS n'est pas simple, puisque les règles financières sont très strictes, notamment en matière de salaire élevé. Cependant, la Ligue nord-américaine aurait trouvé une solution. D'après le quotidien catalan Sport, un accord a été trouvé entre tous les clubs. Ils seraient OK pour financer chacun une partie du salaire de la Pulga, peu importe sa future destination. On se dirige désormais vers le Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Là aussi, on est prêt à tout bouleverser pour le champion du monde. Le quotidien espagnol Marca a expliqué récemment que le souhait des dirigeants est de faire signer Léo Messi à Al Hilal, club rival d'Al Nassr, où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Le même problème se pose, le salaire. Léo Messi voudrait s'aligner sur les 200 millions d'euros annuels de Cristiano Ronaldo. D'après le média espagnol, les dirigeants du pays seraient prêts à changer les règles sur la limite salariale afin de lui dérouler le tapis rouge. On revient en Europe, au Paris Saint-Germain, où les négociations se poursuivent entre le joueur et le club pour une prolongation. Alors, il y avait un accord verbal en fin d'année 2022. Les positions se sont éloignées en début d'année. Écoutez Christophe Galtier, hier en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain et interrogé sur la prolongation de Léo Messi.
Ce qui va se passer la saison prochaine, on y travaille beaucoup.
avec la direction. Concernant l'avenir de Léo, il y a la position de Léo, la position du club. Moi, je suis focus sur les 10 matchs pour aller chercher ce titre de champion de France. Quant à savoir ce que va décider Léo, ce que va décider le club, ça reste très confidentiel.
Une réponse un peu nébuleuse de Christophe Galtier. La semaine dernière, Nasser El Khelaïfi, le président du club, expliquait qu'il discutait pour une prolongation de Lionel Messi au club. Selon nos informations, il n'y a pour l'heure pas d'accord sur les indemnités ni sur la durée de contrat. Enfin, la rumeur d'un retour de la Pulga à Barcelone a été relancée hier à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour le lancement d'un événement de formation. Rafa Yust, le vice-président du Barça, a affirmé publiquement être en contact avec l'entourage de Lionel Messi. Ça a eu l'effet d'une bombe, évidemment, en Catalogne, où beaucoup espèrent le retour de l'enfant prodige. Genre, j'aimerais que Messi revienne, mais cela ne dépend pas de moi, précise Xavi, l'entraîneur des Blaugrana. Affaire à suivre.
Merci beaucoup Fabrice Hawkins pour ce résumé et toutes ces pistes pour la suite de la carrière de Lionel Messi. Le résultat pour l'instant de votre vote. Messi fait-il encore rêver ? C'est un 82-18. 82 non, 18 oui.
Ah ben, dis donc.
Simon Dutin, David Douillet, vous allez avoir, comme on dit, du pain sur la planche. Le plus grand défenseur dans cette émission de Lionel Messi, Simon Dutin va s'essayer à l'exercice. Il fait encore rêver. Attention, parce que les deux, après, je les contrôle plus. Hein. Ils vont te sauter dessus. Simon Dutin, oh, pourquoi vous?
Mais je les attends, les pimpins qui m'expliquent que Lionel Messi fait plus rêver. C'est
par contre, des gens pimpins, qui. Ouais.
Mais non,
tu vas prendre une.
Mais non, mais parce qu'on s'est déjà un peu parlé sur WhatsApp. Et comment tu peux aimer le football et m'expliquer que Lionel Messi, il fait plus rêver? On s'extasie. Alors, si Lionel Messi fait plus rêver, explique-moi qui fait rêver. Donc, tu mets Mbappé à part, effectivement. Il domine le football mondial. Et encore, je considère que les faits se sont pas penchés sur son berceau comme sur celui de Messi. C'est pas, il y a pas la magie qui sort des pieds de Messi. Alors qu'il fasse plus rêver ou qu'il les déçue énormément, les supporters du Paris Saint-Germain, j'en conviens. Il cristallise effectivement les déceptions autour de la saison du PSG. Mais bon, 13 buts, 13 passes décisives en Ligue 1. Il y a aucun joueur qui atteint dans ces deux catégories statistiques. Là, donc ça fait pas rêver. Mais pourquoi? Parce que tu pars de tellement haut qu'effectivement, t'as une exigence. Effectivement, avec celui que je considère indiscutablement comme le plus grand joueur de tous les temps. Je te dis 13 buts, 13 passes. Tu sais, en double-double, on parle dans les sports américains. En Allemagne, ils nous disent que Randall Kolo Muani, sur lequel on s'extasie à juste titre en ce moment, effectivement, sur lequel on est dithyrambique, est le seul à atteindre pareil ses sommets. Donc tous les crépuscules des idoles, des dieux vivants dans les sports sont difficiles à regarder, effectivement. Et du coup, t'es très sévère sur les performance de mec qui décline inévitablement avec l'âge. Je considère que chaque match de Lionel Messi est un trésor. Chaque but, chaque passe, chaque fois que le ballon sort de ses pieds, ça reste magique. On saura lorsqu'il aura quitté à la fois la Ligue 1 et à la fois le football professionnel ce qu'on a perdu. Moi, je vois le vrai Lionel Messi quand je regarde le Paris Saint-Germain. Donc, effectivement, il y a cette déception.
Aussi,
non, mais je
pas de l'amour.
Peut-être que je suis pas objectif, mais excuse-moi, même tout journaliste qu'on est, on peut avoir nos faiblesses. Moi, effectivement, il cristallise là aussi l'élimination contre le Bayern Munich. Mais une semaine avant, quand ils ont rincé l'OM 3-0, excuse-moi, il a pas fait rêver les supporters du PSG, parce que Mbappé, ok, marque, mais sans Messi, il marque pas. Il a détruit l'Olympique de Marseille, qui fait une saison. Okay. Extraordinaire. Okay. Non, c'est comme des ouf, et à Barcelone, ils en ont vu passer des questions.
Je pense qu'on peut répondre de plusieurs façons à cette question en fonction d'où on se trouve sur la planète foot, et tu viens de le dire. À Barcelone, en Argentine, ça restera un dieu éternel, et peu importe, il ne met plus un pied devant l'autre. Les gens l'aduleront jusqu'au bout. Au Parc des Princes, je ne suis pas sûr qu'il fasse rêver grand monde, Simon, si ce n'est les influenceurs qui vont faire un TikTok ou un selfie avec lui. Et moi, je vais répondre de façon personnelle. Mais si, il ne m'a jamais fait rêver, parce qu'aucun footballeur m'a fait rêver, parce que déjà, ce n'est pas mon sport. Ensuite, il m'a enflammé, clairement, avec Barcelone. Plusieurs fois, il m'a enflammé sur des traversées, sur des chevauchées fantastiques. Il a mis des buts fantastiques. Il a fait kiffer la planète entière. Moi, pourquoi il me fait plus rêver actuellement? Parce qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain Lionel Messi au Paris Saint-Germain, tu es d'accord que bon là il y a un petit kiff Simon, il y a c'est quand même t'as quand même des attentes hors normes parce qu'en plus il est au Paris Saint-Germain, il est pas en beau cours parce qu'il est ballon d'or encore. Et il va chercher son ballon d'or avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et en fait, il est arrivé en pré-retraite. Unique objectif, la Coupe du Monde. Unique objectif, la Coupe du Monde. Bravo à lui. Il est champion du monde. Mais je suis désolé, Messi, sous le maillot du Paris Saint-Germain, il n'y a rien qui fait rêver. Il n'y a jamais un sourire sur le terrain. Les deux matchs les plus importants au huitième de finale, porte est disparue. Fantomas, sur la fin de saison, c'est François Cluzet, dont intouchable. Et Mbappé, il n'est pas là derrière pour le faire rouler, Lionel Messi. Voilà.
C'est la vérité. Il a préparé sa vanne. Excuse-moi, c'est affligeant.
Mais non.
Je suis désolé. Mais un milieu de terrain qui est capable de détruire le milieu de terrain adverse, Messi, tu verrais qu'il ferait gagner Paris. C'est pas Messi. Messi, il a toujours marché, même à sa grande époque. De quoi on me parle? C'est Messi qui doit tirer le Paris
présent. Simon, je te parle pas de ce qu'il a fait.
Le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas les performances de Messi. De quoi on parle?
C'est quoi le vrai problème de Messi? C'est qu'il y a des dieux éternels dans le foot et dans tous les sports. Jordan en est un, Zinedine Zidane en est un. Ses problèmes, c'est que eux, même quand ils sont plus sportifs, ça reste des dieux éternels. Pourquoi? Parce qu'ils ont un charisme monumental. Messi, quand il aura arrêté le foot, charisme,
c'est vrai, mais tu viens sur la circulation. Mais ouais, c'est vrai. Mais
bah oui.
Mais ouais.
C'est la réalité.
Mais Victor Hugo, c'était le cul sur la commode.
Je connais pas, moi, Victor. Ouais.
Steven Hawking, c'était toujours le dernier à quitter la soirée. Beethoven, c'est Tiroli Pimpon sur le Chihuahua. Non, mais faut arrêter avec ces conneries de charisme. Qu'est-ce que c'est? Le mec, c'est quoi? Il fait pas assez de blagues? Il sourit pas assez? Il fait pas assez de vannes en interview?
Qu'est-ce qu'il dégage?
On s'en fout.
Du personnage. Pourquoi Zidane cristallise autant de passion?
La question, c'est fait-il encore rêver? Donc on part du postulat qu'il a fait rêver quand même, les gens.
Il a fait rêver.
Comment il a réussi à faire rêver alors qu'il
est par le football? Par le football uniquement.
D'accord. Mais maintenant, donc on parle de quoi?
Et maintenant qu'il est plus performant sur le terrain, il fait plus rêver.
Mais qui fait plus rêver que Messi alors dans le football mondial? Vas-y, sors-moi les noms.
Ok.
Kylian Mbappé.
Tu m'enlèves Mbappé, Haaland et Vinicius.
On va
prendre
tout le monde non plus. Ok.
Il y a un truc qui est assez simple. Il est encore en discussion avec le PSG. Le Barça est rentré en discussion avec eux, avec lui. Excusez-moi, mais...
Mais c'est juste de l'image, David. C'est plus pour les sportifs.
Il fait encore rêver. Je veux dire, Messi, c'est l'archétype même du taulier qui, et je pense que c'est ce qu'il vit au PSG, il faut qu'il soit tout seul, comme il faut qu'il soit la star de l'équipe pour qu'il s'exprime vraiment. Et c'est en partie pour ça qu'il est étouffé par Mbappé, parce que voilà, il a un jeune qui a du talent, etc., etc. D'ailleurs, il l'a montré à la Coupe du Monde, puisque ça a été un duel Mbappé-Messi, et il a remporté le duel quand ils se font face à face. Mais quand ils sont ensemble, ben voilà, c'est comme ça. Et t'as peut-être un petit peu raison. Stephen, sa personnalité qui était un peu moins exubérante, ben il se fait un petit peu étouffer. Mais en tous les cas, il fait toujours rêver, je suis désolé. C'est un joueur hors norme, c'est un joueur exceptionnel. On vient de parler des deux meilleurs joueurs au monde pour moi, hein, Mbappé, Messi, point barre. Donc voilà, comment on peut imaginer que Messi ne fasse pas toujours rêver? Je suis désolé, mais il est toujours dans le coup.
Peux pas me dire que Messi aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs au monde, David.
Bah, regarde la Coupe du Monde, excuse-moi. Quand il est dans les meilleures conditions pour s'exprimer, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, il l'a prouvé, c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde.
Quand il a envie. Quand il a envie de jouer,
oui. Et au Paris Saint-Germain. Non, quand il est dans les bonnes conditions. Mais comme n'importe quel joueur.
Il faudrait
mettre
dans les meilleures conditions. Effectivement, tu sais qu'il court pas. Donc, il faut qu'effectivement, il y a toujours eu des mecs à son service. Soit qui tiennent le jeu à 30 mètres du but adverse et qui lui donnent le ballon dans les bonnes conditions.
Le Messi actuel, c'est le même que t'as vu il y a 10 ans.
Je trouve qu'il a eu l'intelligence de se réinventer. On a tendance à sous-estimer, la fracture, tu vois, psychologique, tu vois, la façon dont il a dû s'adapter après avoir vécu. Mais mec, t'es marrant. Il débarque, il vient. Il a vécu 20 ans dans la même ville. Il débarque dans un club où les attentes sont énormes, où effectivement son arrivée s'accompagne de fantasmes. Effectivement, le meilleur joueur de tous les temps débarque à Paris et là tout le monde se gargarise. Et parce que quoi?
Donc c'est fragile.
Ah ben peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il y avait quand même une adaptation à faire. Il a su se réinventer et il a eu l'intelligence d'arriver à Paris en se disant bon, il y a quand même un petit là devant qui va très vite et qui marque des buts. Il s'est mis au service. Il a reculé un petit peu. Je considère que c'est toujours le meilleur joueur du monde. C'est un buteur moins redoutable. C'est toujours la plus belle passe du football mondial. Personne ne trouve des passes dans la verticalité. C'est devenu de plus en plus dur à trouver dans
Kevin
le football.
Kevin De Bruyne. Yann Mvila.
Est-ce que quelqu'un pourrait indiquer Christophe
s'il vous plaît. Champions. Si, mais je donne la main à Christophe qui est du même avis que Stephen Brun. Pour lui, c'est non, il ne fait plus rêver.
Moi, je vais faire hurler Simon, mais moi, il ne m'a jamais fait rêver, Léo Messi. C'est simple. Il m'a jamais fait rêver.
T'aimes pas le football.
Mais bien sûr, parce que toi, tu aimes le foot. Toi, tu fais partie.
Mais non, mais au bout d'un moment, il y a.
Attendez, on laisse parler.
D'accord. Ok. Il y a des pensées quand même. On a compris. C'est ton idole éternelle. C'est le mec devant lequel tu vas prier tous les matins. On a bien compris. T'es complètement dingue. À t'écouter, t'es complètement dingue. Mais j'ai jamais vu un football, un journaliste à ce niveau-là. T'es plus journaliste là.
Ah non, avec Messi, non. Mais je pense que.
On a l'impression
des journalistes avec Lionel Messi.
On a l'impression des vieilles qui vont de voir Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est la même chose. Mmh. Là, c'est ton idole. Je suis désolé. Prends un peu de recul. Ce mec-là a été un immense footballeur, sans doute le plus grand de sa génération. Je dis pas le plus grand de tous, le plus grand de sa génération. Mais moi, il m'a jamais fait rêver parce qu'il ne dégage rien, ce garçon. Mis à part ses arabesques sur le terrain, là, il est fantastique, mais il ne dégage rien. Je suis désolé. Moi, je vous ai parlé la semaine dernière. Alors peut-être c'est une question de génération. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un garçon qui s'appelait Johan Cruyff. Eh ben moi, ce mec-là, il me faisait rêver parce que non seulement sur le terrain, il était beau, il était élégant, il donnait des passes, il marquait des buts, et en plus c'était une vraie personnalité en dehors du terrain. Il prenait position, il est allé au Barça, non pas parce qu'on lui proposait le plus d'argent, mais parce que c'était le symbole du club qui luttait contre Franco. Je suis désolé, moi je prends en dehors du foot. Toi tu passes foot, ballon, passe. Moi je passe, je vais au-delà de ça. Et ce mec-là, il ne dégage rien, il n'a aucun sens de l'humour, il n'a jamais fait une déclaration qui m'a dit putain ce mec, qui m'a fait dire que ce mec-là a quelque chose dans le ventre. Non, c'est un immense joueur de foot. Mais c'est tout. Voilà.
On s'en fout. Combien il a de ballons d'or?
Tu t'en fous pas. Là, c'est la sensibilité.
Christophe, combien il a de ballons d'or? Excuse-moi. Combien il a de ballons d'or?
Oui, bah, c'est un immense joueur de football. Point.
Non mais ça c'est la sensibilité de chacun.
Non mais donc un joueur de foot pour te faire rêver, il faut qu'il quoi? Il faut qu'il condamne les dictatures partout dans le monde. Il faut qu'il aille faire des maraudes pour distribuer à bouffer à des sans-abri. C'est quoi ces bêtises?
Mais non, mais pas seulement une personnalité.
C'est pas parce qu'il va pas au musée. C'est pas parce qu'il va pas au musée qu'il fait pas de politique.
Dis-moi, tu penses que tu vas passer une grande soirée avec lui?
Quand t'aimes le mais on s'en fout. Heureusement qu'il passe pas une soirée.
Si je l'emmène en soirée,
il ferait pas gagner beaucoup de matchs au PSG, ça c'est sûr.
Johan
Cruyff, c'était une tête de lard. Excuse-moi, je suis désolé, c'est un monde qui était différent. Il se cassait de l'entraînement, il annonçait à son coach qu'il allait pas jouer. Je suis désolé, il était pas fiable. Et c'est une époque où
Maradona était pas stylé.
Ça jouait en marchant, Maradona. Effectivement, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Ça jouait en marchant, ça jouait à la baballe. Excuse-moi.
Mais comme que c'est Messi,
la vitesse, le dribble de Messi, la finition de Messi, la passe de Messi et la façon dont il a inspiré.
Oui, avant, je suis d'accord avec toi, Simon. Plus maintenant.
C'est le vrai Messi.
Il n'est pas bien entouré.
Parce que là, tu lui fais du mal. Le recrutement moisi du PSG l'été dernier, c'est pas Messi. Les blessures en défense centrale,
l'implication dans le jeu, c'est pas Messi.
Les conneries de Donnarumma en Ligue des Champions contre le Real, c'est pas Messi. Faut arrêter les bêtises.
Les poubelles dans la rue à Paris, c'est pas Messi.
C'est pas Messi non plus.
Il a chauffé tellement sous son crâne qu'il en a perdu son bonnet.
Vous connaissez rien au foot.
Ok les copains, on va voir encore si vous avez quelques arguments. Encore deux minutes à donner.
82-18.
Ce sera le temps additionnel évidemment. On va faire partir la petite musique. Je vais juste vous donner un point sur les scores. Un débat très enflammé. Fabrice Hawkins, c'était avec le paquet de popcorn. Je me régale. Simon qui défend bec et ongle Lionel Messi.
C'est beau, l'amour.
Messi vous fait-il encore rêver? C'est la question que l'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Et pour l'instant, alors nous sommes partis il y a 10 minutes avec un bon 82 non, oui à 18%. Nous sommes à 81-19.
Oh, incroyable.
Ça évolue un petit peu, Simon.
Eh ben, on a gagné.
C'est Lionel Messi qui a voté.
On a gagné.
Le clan Messi.
On a progressé.
Ok, qui veut encore ajouter quelque chose?
Non, moi je sais pas.
Non, les chiffres sont là. Tu vois.
C'est quoi, moi je vais laisser parler l'amour de Simon.
Ouais, c'est beau. Vas-y, raconte.
Il y a tellement de passion et je me retrouve quand
tu parles de Roger Federer.
En fait, voilà, donc, quand il le voit jouer, il a le kiki tout dur en fait.
Non, mais c'est ça, mais Christophe, il aimait pas trop Michael Jordan, il aimait pas trop Roger Federer, il aimait pas trop Mohamed Ali.
Ah non,
les mecs
qui
Roger Federer, il a jamais pris position politiquement, non? Il a jamais.
Il a soutenu Rolex
à un moment donné. Ah donc du coup il fait rêver quoi.
Exemple sur Mohamed Ali, là j'ai pas compris.
Bah je sais pas, c'est tous les mecs qui ont dominé leur sport sur des générations, ils font pas rêver quoi.
Mohamed Ali, c'était pas seulement sur le ring qui faisait rêver mon gars. Révise un peu ton histoire du sport.
Ah mais justement les déclarations de Mohamed Ali aujourd'hui. pour un mec qui parle comme Mohamed Ali à l'époque, ce serait invendable. Il serait brocardé et il ferait pas rêver.
Simon, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, au Parc des Princes, les supporters du Paris Saint-Germain ont aimé le passage de Lionel Messi, les deux?
Non, mais encore une fois, j'ai commencé par ça. Effectivement,
les supporters du PSG étaient
déçus parce qu'encore une fois, il cristallise, il y a un effet de loupe sur ce mec parce que c'est un géant, c'est un dieu vivant de son sport. Effectivement, le jour de la, tu t'en as parlé, le jour de la présentation, alors ils étaient cinq à être présentés, mais où ça se termine par Lionel Messi avec le parc incandescent qui chante Lionel Messi. Moi, je suis pas supporter du PSG, j'en avais des frissons, j'étais coaché devant ma télé, tu disais, j'étais à l'antenne sur RMC le jour où son avion a
mais c'est le plus grand moment de Messi au PSG, c'est quand il est arrivé à
mais
Paris,
c'est pas vrai.
Parce que c'était le virage de d'espoir incroyable,
c'est
celui de voir enfin gagner toutes les compétitions.
Mais effectivement, je pense que la vision qu'on a de Messi et de sa fin de carrière, elle est faussée par l'effet de loupe qu'il y a sur les résultats du PSG, le contenu des matchs du PSG et la frustration qui en découle des supporters parisiens.
Ok, David Douillet.
Moi, j'ai entendu un truc, il y a un sujet dans ce débat. Il y a d'une part, d'un côté, deux personnes qui parlent de la personnalité globale d'un joueur. Et nous, on s'évertue à vous expliquer que, on parle de l'attrait sportif du joueur. Et là, on a mélangé les deux. Enfin, faut être plus précis dans la question. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la personnalité de ce joueur qui fait toujours rêver ou pas, et on met tout dedans, ou est-ce que ce joueur, sportivement parlant, fait toujours rêver? Je suis désolé, mais les résultats, ces résultats le prouvent, encore aujourd'hui, et moi, mon explication de dire qu'il est un peu étouffé et qu'il n'est pas dans le bon club au PSG, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est vrai. La preuve, puisqu'il nous a donné une prestation en Coupe du Monde qui était hors du commun, la preuve, il l'a gagné.
Donc,
il fait toujours rêver. Mais si on parle, si on transgresse et si on arrive dans des capillarités qui sont externes au sport en disant il prend pas position politique, machin, bidule, truc, ben c'est absurde. Voilà. Parce qu'il y a mille et une personnes qui prennent des positions.
Les discours politiques, les discours que j'entends de Simon et de David, ça doit être les mêmes que doivent tenir Nasser El Khelaïfi et compagnie. Et pourquoi le Paris Saint-Germain n'y arrive pas? Parce que voilà, aveuglé par Lionel Messi, sa carrière, on le garde, on continue avec lui.
On va terminer là-dessus parce qu'on peut faire la comparaison et tu l'as fait avec Michael Jordan. Michael Jordan, je m'adresse à toi, Stéphane. Son dernier passage à Washington, il faisait encore rêver à cette époque-là?
Oui, parce qu'il avait 40 balais et qu'il était capable de mettre 40 pions sur un match, donc c'était fantastique.
Oui, mais Lionel Messi est aussi capable de mettre des triplés. Encore aujourd'hui.
Oui, mais bref, enfin, tu vas pas. Dans le match contre Marseille, il a détruit Marseille à lui tout seul. Il fait un match extraordinaire.
Bon match
contre une équipe de
Gagné tout seul.
Mais Michael Jordan avait cette aura.
Mais en plus,
cette aura fantastique qui dégage.
Oui, mais tu mélanges des choses.
Michael Jordan rentre dans une pièce, je t'annonce, la vie s'arrête.
Oui. Mais Messi qui rentre sur un terrain,
pareil,
c'est la même chose.
Messi
rentre au Cardinal, porte de Saint-Cloud.
Moi, je considère pas la même chose. Je te parle du terrain. Pourquoi vous voulez foutre ce débat en dehors du terrain?
Parce que ça compte.
Faire rêver.
Mais non, il y a pas que ça qui compte.
Le terrain, il a disparu pour Messi, donc il faut continuer à faire rêver en dehors avec son aura. Mais il a pas d'aura, Lionel Messi. On va passer à autre chose. Fait-il encore rêver? Vous êtes allé sur le chemin de l'aura du joueur, l'aura du joueur, on a bien compris. En tout cas, c'est une défaite de nos amis Simon Dutin, David Douillet. Nous sommes revenus à 82-18. Donc on peut dire que c'est un match nul, si tu veux. Voilà, 82 non, il ne fait plus rêver. 18 oui, il fait encore rêver. Merci à Fabrice Hawkins d'avoir été avec nous. Ce matin, 11h27, on revient dans quelques instants, on va faire descendre la température, mais la température en France, parce qu'en Belgique, avec le Tour de Flandre, elle y est, cette température. Nous avons sillonné ces routes flandriennes avec Arnaud Souk, et vous allez voir que la folie est totale. C'est le reportage des GG, à tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h30,
Jean-Christophe Drouet.
11h32, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Simon Dutin, Stéphane Brun, Christophe Cessieux. Dans quelques instants, le reportage de la rédaction d'RMC autour du Tour des Flandres. Ce sera demain et on en reparlera autour de Julian Alaphilippe. Mais tout de suite, c'est une première dans cette émission. un auditeur, c'est comme le débat caché, mais un auditeur, parce qu'un auditeur a voulu casser son téléphone quand il nous a entendu sur le débat Lionel Messi. Il voulait absolument réagir. Alors je vais accueillir Michel. Bonjour Michel.
Non, je parle pas de Messi. J'appelle de Marseille. J'appelle Michel. J'appelle parce que je suis totalement. Il est là, Jean-Christophe.
C'est toi, Jean-Christophe. C'est moi. Ah, voilà.
Totalement scandalisé par l'imitation que tu as faite d'un Marseillais ce matin. C'est une honte. Les Parisiens, c'est toujours pareil. Putain, les Parisiens, dès qu'il y a un Marseillais, il faut que vous l'écrasiez. Ça, c'est pas possible. Moi, Jean-Pierre Foucault, c'est un collègue.
Non, je reconnais la voix.
Bien sûr.
C'est Jean-Pierre.
Non. On me dit que je suis le meilleur imitateur de Jean-Pierre Foucault du monde.
Alors, on va essayer. On va envoyer la musique. D'accord. Alors là, j'étais pas du tout au courant. C'est magnifique. On va envoyer la musique de Qui veut gagner des millions et on va voir qui fait mieux le mieux.
Continue à te foutre de la gueule des Marseillais. Vas-y.
On va voir qui fait le mieux, Jean-Pierre Foucault. Allez-y, Michel.
J'espère que j'allais y arriver. C'est... Monsieur Drouet, voici la question. Ce matin, vous avez imité Jean-Pierre Foucault, réponse A d'une façon lamentable. Réponse B d'une façon exécrable. Réponse C, j'ose pas vous dire. Réponse D, donnez tout de suite votre démission. Attention, je vous écoute.
Ça va être compliqué.
Écoutez, je vais... Écoutez.
Oui.
Ce sera la réponse D. Et c'est mon dernier mot, Michel. Mais,
attendez, avant de dire c'est mon dernier mot, laissez Jean-Pierre Foucault vous poser la question. Est-ce que c'est votre dernier mot?
J'hésite parce qu'il y a une démission en jeu quand même.
Jean-Christophe, est-ce que c'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Michel Jean-Pierre.
vous avez tout perdu. Comment ça va? Bon poisson d'avril, hein. En fait, on est le 1er avril, hein.
Bah oui, merci beaucoup.
C'est énorme.
Quel bonheur.
Et d'entendre, moi, alors, tu sais quoi? Moi, Jean-Pierre, j'écoutais RMC quand j'étais petit. Jean-Pierre et Léon, c'était, voilà,
Radio Monte-Carlo, tu veux dire.
C'est toute ma jeunesse. Quand j'habitais à Nice ou à Marseille, j'écoutais Jean-Pierre et Léon. Et d'entendre Jean-Pierre sur RMC, ça me fait des petits frissons, quoi. C'est trop
sympa. Franchement,
je suis très content d'être de retour sur Radio Monte-Carlo.
Voilà, Radio du Soleil.
Pendant quelques minutes, ça va? Je vous écoute, je connais tout le monde autour de la table, je vous embrasse tous.
Ben, Jean-Pierre, on ne peut pas se quitter comme ça, c'est un honneur de vous parler, évidemment. Mais tout de suite, qui veut gagner des millions? Alors, la question du jour. La question avec Michel. Avons-nous Michel au téléphone ou un usurpateur? C'est bien ou pas, Jean-Pierre? C'est catastrophique.
Dis-moi, il faut que tu arrêtes là.
Je crois qu'à un moment.
Il faut que tu prennes une décision une bonne fois pour toutes. Il faut que tu arrêtes.
Bon, j'arrête.
Pour l'honneur de la radio, pour l'honneur des RMC.
Promis, voilà, en tout cas, c'est super sympa, Jean-Pierre, merci, d'avoir été avec bien. Nous. C'était un grand, grand plaisir. Et merci, vous venez Jean-Pierre. Dans les grandes gueules du sport quand vous voulez parler avec nous de sport.
C'est l'OM, hein. Jean-Pierre. Ouais.
Franchement,
avec plaisir.
L'invitation est lancée, Jean-Pierre, vous venez quand vous voulez.
Venez nous voir quand vous finissez troisième cette saison, ça va être sympa.
Non, mais qui c'est? Jeanne.
C'est Stephen Brun.
C'est pas parce qu'hier on a fait un match nul, partout.
Vous étiez fatigué.
Il faut encore vous écraser.
Et ouais, on était fatigué. C'est la trêve internationale, Jean-Pierre.
Non, mais on va bien terminer la saison, vous inquiétez pas.
Bon, hein. Jean-Pierre Chiche, on parle de sport ensemble un jour, dans pas longtemps, dans l'émission.
Ah, mais avec plaisir.
Merci pour ce clin d'œil, c'était super. Et promis, j'arrête l'imitation, c'est promis.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, c'est l'instant reportage.
RMC, les GG sont sur le terrain.
Sublime. Ah, j'étais au courant de rien. Alors là, franchement, magnifique, avoir Jean-Pierre Foucault comme ça au téléphone, une légende, c'était absolument incroyable. Alors cette semaine, nous allons reprendre le fil de ce conducteur. Nous étions sur les routes du Tour des Flandres avec la 107e édition qui va se disputer demain, une course mythique qui déchaîne les passions, notre envoyé spécial, spécialiste vélo. C'est Arnaud Souk, il est avec nous en direct. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
C'est vrai que c'est la course la plus attendue de l'année en Belgique.
Oui, et pour nous rendre compte de la folie, en tout cas, qui va monter tout au long du week-end, je vous souhaite d'abord la bienvenue chez Annie et Philippe dans un café nommé...
Just for that.
Alors, on va tenter une petite traduction avec nos hôtes du jour, vous allez voir, ça vient pas tout de suite.
en français.
C'est difficile d'expliquer en français.
La bonne vitesse pour monter.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Ça veut dire aussi, just for that, qu'on s'amuse ici.
Voilà, deux traductions pour une seule symbolique, celle du vélo célébré comme un emblème en Belgique. Thieste Verzet, c'est le point de départ du vieux Coirmont, c'est le mont mythique du Tour des Flandres. Voilà pourquoi il vaut mieux ici arriver avec la bonne vitesse pour monter. Un café seulement ouvert les premiers dimanches du mois et les jours de course où les cyclotouristes aiment venir se restaurer et passer un bon moment. Donc établissement à la rusticité assumée, décoré bien sûr aux couleurs du cyclisme flandrien. À l'intérieur, un véritable petit musée, des bidons, des photos et surtout des maillots.
Ça c'est le maillot de Cancellara là-bas, il a signé. Là-bas, Valverde, il a marqué Thieste Verzet pour notre café. Ça c'est Philippe Gilbert.
Je suis très intéressé dans un maillot de Wout van Aert, mais j'attends quand il gagne le Tour de Flandre.
Et ce sera peut-être demain. En tout cas, l'endroit, c'est rare par ici à garder toute son authenticité. Il fera face demain au chapiteau VIP où le droit de cité se négocie à 300 euros minimum. Thieste Verzet, c'est un ancien corps de ferme où les ânes sont rois et permettent surtout à Annie et Philippe d'avoir leur champ entièrement tondu. Car oui, une fois l'an, ce week-end, leur café se transforme en camping. L'emplacement, c'est paradoxal, vaut de l'or car il est quasi gratuit et offre une vue imprenable sur la route de la course.
Notre prairie, c'est complet. On installe les mobilhomes. Hein.
Beaucoup de mobilhomes qui viennent de France.
Vous en avez combien, là ?
70, oui, 70, oui.
Tout le monde voulait être ici avec le mobilhome parce que nous avons une télévision. C'est un autre mot, mais je ne connais pas.
Écran ?
Oui, mais très grand. On a des ambiances ici, il y a quelque chose pour manger et beaucoup d'amitié. Une fois qu'ils sont venus, ils reviennent tous les années. Parce qu'il aimait bien.
Et ce petit bout de Flandre authentique va s'éveiller donc tout ce week-end au rythme de la fête. Musique traditionnelle, bière, frites, carbonade, aujourd'hui sous la pluie. Le tout avant le dimanche saint, demain du Tour des Flandres. Je dis bien dimanche saint car ici, le vélo n'est ni plus ni moins qu'une religion, me confirme Hugo Courvitz, journaliste flamand qui couvre depuis plus de 30 ans le cyclisme pour le quotidien belge, le Het Nieuwsblad.
C'est dans l'ADN des Flamands. C'est comme Noël, c'est comme Pâques. Dans la boulangerie, aux boucheries, ça parle partout qui va gagner. Est-ce que Van Aert peut gagner? Est-ce qu'un Belge peut gagner? C'est hot en Belgique, oui.
C'est hot, c'est chaud en Belgique où le million de spectateurs devrait être atteint tout au long des 273 kilomètres de course entre Bruges et Audenarde, d'une folie qui se laisse encore plus savourer depuis le Covid et l'édition 2020 où les supporters belges avaient été priés de rester chez eux. Personne au bord de la route et notamment dans le vieux Coirmont. Le flamand Oliver Nyssen, 7e cette année-là, s'en souvient avec un certain cafard.
Quand il y a une foule, c'est vraiment la folie. Surtout quand tu pèses sur la course et tu joues les premiers rôles, c'est vraiment dingue. Cette année-là, j'ai passé tout seul en troisième sur le vieux Coirmont, une dizaine de kilomètres de la ligne, podium, envisageable. Pas une personne. Oh, c'était tellement nul, je voyais seulement le drone qui passait au-dessus de ma tête. C'était stérile et vraiment nul. C'était même mieux. L'année passée, j'avais la grippe juste avant le Tour des Flandres, donc j'étais pas top. Et je pense que j'ai passé là, genre top 15, top 20 la dernière fois. Et même ça, c'était mieux que passer en position de podium sans public, donc ouais.
Et la folie est clairement montée d'un cran ces dernières années sur le Tour des Flandres et sur ses courses petites sœurs. Malgré la pluie, le vent, vendredi dernier pour la deuxième des cinq classiques de la Semaine Sainte, le Grand Prix E3, la route était noire de monde. Témoin privilégié, Julien Jourdil, directeur sportif de l'équipe française à G2R Citroën.
Quand on voit des Van Der Poel, des Wout van Aert, des Pogacar, tous ces gros clients qui se donnent rendez-vous tous les trois jours pour batailler. Donc voilà, donc cette semaine elle est particulière. Là honnêtement, je suis vraiment impressionné chaque année. C'est le marée humaine et c'est un sport qui est assez génial. Le vélo, c'est qu'on est au milieu de la foule, tout ça, on se sent porté pour se transcender et aller chercher un bon résultat.
Voilà pour la raison sportive à l'engouement, mais plongeons-nous aussi en un mot dans le passé entre histoire et sociologie et géographie. Les Flandres, terre de vélo, rien de plus logique pour l'estarien belge Laurence Tragier.
C'est dans notre peau, on vit avec le vélo. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler en France, par exemple, pour faire la saison des betteraves. Et des gens qui travaillaient en usine. Donc on travaillait très dur, le samedi, etc. Beaucoup d'heures, et on était mal payés. Être coureur, c'était le seul moyen d'échapper à cette vie-là. Et en plus, le vélo s'utilise aussi pour se déplacer vers son travail, vers l'école. Donc le vélo, c'est quelque chose qui s'utilise.
Et voilà donc pourquoi il est tant adulé ce vélo, illustration étonnante hein, d'ailleurs de sa place en or dans le cœur des Belges, dans de nombreux musées à la gloire de la bicyclette. Ce ne sont pas des rois, des reines ou de grands hommes de l'histoire dont on trouve les peintures, mais bien d'Eddy Merckx, de Rick Van Looy et de tous leurs congénères du plat pays.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ce reportage extrêmement complet sur le Tour des Flandres, la course qui va nous animer demain après-midi. Tu seras là également Arnaud demain après-midi et demain matin aussi dans les grandes gueules du sport à partir de 10h où on parlera de Julien Alaphilippe. Faut-il encore compter sur lui? Votre réaction à ce reportage, ça vous fait rêver ça, le Tour des Flandres?
Alors on était en train d'en discuter avec Simon à la fin du reportage d'Arnaud, on disait que c'est pas notre culture en fait, la culture des courses flamandes sur les pavés, dans le brouillard, sous la pluie, dans le vent, avec ces coureurs. C'est des coureurs très particuliers qui gagnent le Tour des Flandres, c'est les mêmes que ceux qui gagnent Paris-Roubaix. Et nous, c'est vrai que dans la culture française, on préfère les petits gabarits qui grimpent dans l'école au mois de juillet, dans la chaleur et dans l'ambiance. Mais il faut être allé au moins une fois, quand on est journaliste sportif ou supporter de vélo, dans ces coins-là, ce jour-là, c'est une ambiance extraordinaire, extraordinaire. Tout le pays, toute cette région est mobilisée pour ça. C'est plus la fête encore que le Tour de France durant l'été dans notre pays. C'est dingue. Je pense que demain, la moitié, même les trois quarts des Flandres vont regarder la course à la télé ou se déplacer sur les routes. C'est un truc complètement dingue.
Un truc complètement dingue. Est-ce que vous validez ça aussi? C'est peut-être moins ta culture, Simon.
Oui, bah, c'est exactement ce que Christophe disait. Effectivement, quand tu vois le palmarès des mecs qui sont associés.
Paris-Roubaix, c'est la semaine prochaine. Est-ce que ça te parle aussi ou c'est aussi pas forcément ta culture?
Paris-Roubaix, c'est chez nous, alors forcément.
Ah ouais, c'est l'enfer, non, mais, l'enfer du Nord.
Je sais pas, les Boudin, Cancellara, Sagan, si je voulais caricaturer, je dirais que c'est un peu trop costaud, un peu trop bourrin pour moi. Effectivement, je préfère les danseuses étoiles qui grimpent l'école. Et à ce titre, je disais à Christophe, si Pogacar pouvait gagner, moi Pogacar me fascine parce que justement il allie un peu toutes les qualités du cyclisme sur tous les terrains. Mais effectivement c'est pas le cycliste qui a priori me fait rêver. Pour autant effectivement j'aimerais bien, j'ai encore dit effectivement, on me le reproche beaucoup, je vais essayer.
Ouais, c'est la 850e fois de la matinée.
Écoute hein, toi c'est mon grand à la fin des
non gros
gros ouais. C'est mon grand. Bon bref, mais effectivement pour ne pas le redire, l'ambiance qui traverse l'écran du poste de télévision, j'aimerais bien la vivre en direct. Et j'envie notre confrère et ami Arnaud Souk qui lui est habitué à ces joutes et qui va certainement encore se régaler aujourd'hui.
David, toi le fan de vélo, le Tour des Flandres, c'est demain, exactement. Le Tour des Flandres, ça te parle ou non? On est cocorico, nous c'est Paris-Roubaix, c'est le Tour de France et c'est un peu loin de nous, même si c'est à côté, il faut bien le dire.
En fait, moi, ce qui me parle, c'est quand des compétitions sont dans leur territoire. Parce que ça va bien au-delà de la compétition sportive. C'est dans les gènes des personnes qui sont là, tant chez les spectateurs que les coureurs locaux. En faisant un amalgame, c'est comme lorsque tu vois, quand tu vas en Norvège, quand tu vois une compétition de ski de fond, ou lorsque tu vas dans les Alpes, ou lorsque tu vas aux États-Unis aussi, voir un match de NBA ou de baseball, etc. C'est quand t'es ancré dans un territoire et que le sport est vécu par les spectateurs comme quelque chose qui leur appartient et qui fait partie... Quelque part, c'est un personnage de leur propre famille. Moi, c'est ça que j'aime et que j'adore. C'est que c'est culturel. Voilà, il y a une course qui, là, est culturelle. Ça fait partie intégrante de l'histoire d'un pays, de sa construction. Ça transpire, d'ailleurs, l'atmosphère du pays. Et moi, j'adore voir des familles partager ça. Parce que tu sens que l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils, le petit-fils et puis le futur, ils continueront à participer à ça parce que ça fait partie de leur culture. Voilà, c'est magnifique.
Et on en reparlera demain évidemment dans cette émission et toute l'après-midi avec Christophe Cessieux, Arnaud Souk au commentaire de ce Tour des Flandres. 11h46, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer les auditeurs, vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG, peut-être que Jean-Pierre Foucault va nous rappeler, je ne sais pas. En tout cas, c'était une excellente surprise. Bravo à la régie. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h30,
Jean-Christophe Drouet.
11h48, la dernière partie des grandes gueules du sport à partir de midi. Restez bien avec nous, les Paris RMC, avec toute la Dream Team au sujet des matchs du jour et notamment la Ligue 1 avec cet alléchant Rennes-Lens. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Mickaël nous appelle au 32-16. Salut Mickaël.
Salut.
Mickaël, tu vas affronter qui ce matin, dis-nous?
Oh, je vais m'attaquer à Simon et David, même si je fais pas le point de catégorie.
C'est par rapport à Lionel Messi, non?
Exactement.
Vous fait-il encore rêver? C'était un grand oui pour eux et Simon et David se sont très bien battus. Vas-y, ils sont à toi.
Ben, en fait, pour, c'est un immense joueur, hein, je vais pas dire le contraire. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à rêver. Un mec me fait pas rêver quand il fait l'impasse sur les matchs avec son club le week-end parce qu'il est soi-disant blessé, qu'il a mal partout. Et que le mardi d'après, il joue titulaire avec sa sélection. Et qu'il fait ça plusieurs fois dans la saison depuis qu'il est au PSG. Je peux pas rêver devant un mec qui en sélection pendant un moment voulait partir parce qu'il était contesté alors qu'il brillait avec Barcelone. Donc non, voilà, désolé, oui, c'est un immense joueur, mais moi ce type de comportement ne peut pas me faire rêver. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a qu'au PSG qu'on peut accepter ce genre de comportement, parce que moi personnellement, moi je suis fan de l'Olympique de Marseille. S'il fait ça à l'OM, Messi, pas Messi, même si le club l'accepte, ben, il passe pas à l'aéroport, quoi.
Il finit dans le vieux port avec un rocher, quoi.
Ouais, non, mais même pas. Je pense qu'il le laisse pas descendre direct. Non, c'est un manque de respect pour le club. Et effectivement, quand on voit les images, quand on est en boucle sur toutes les chaînes où il est tout grand sourire en Argentine et que dès qu'il a le maillot du Paris Saint-Germain, on dirait qu'il a envie de pleurer. Franchement, non, pour moi, ça me fait pas rêver. Et comme disait Steve, pour moi, oui, quelqu'un me fait rêver, donc dans sa manière de jouer et dans son comportement au quotidien.
Ok.
Vous êtes copain avec Steve?
Non, ben je ne copain qu'un Marseillais, moi.
Ah, mais il t'a appelé Steve. Ah, donc Steve, vous êtes potes, c'est un pote à toi qui a appelé.
C'est un diminutif.
Non, mais c'est un pote à toi, vous êtes proche.
Non, mais sur les arguments, en tout cas, là où vous dites, et vous aviez raison de le dire, et je crois que c'est Simon qui le disait, c'est sûr que quand on est supporter parisien, peut-être qu'ils l'ont un peu mauvaise, mais on voit que c'est pas du tout un supporter du PSG qui nous appelle, qui se dit l'image que j'en ai et ce que je vois, bon, bah, ils ont raison d'être un peu agacés.
Moi, je ne me suis exprimé, je ne place le curseur que au plan footballistique. Effectivement, voilà. Bon, il pourrait sourire un petit peu plus, peut-être venir saluer les. Ouais, bah alors ça, même du temps de Barcelone, effectivement, il s'exprimait pas beaucoup. Je pense.
Non,
mais tu fais très bien de le dire, j'y sais, parce que je pense que s'il s'était exprimé lui, quand il y a eu justement ces histoires sur son niveau de performance, sur sa relation avec le public parisien, je pense que ça aurait déminé pas mal de choses. Que ça aurait évité les fantasmes et atténué en tout cas beaucoup de critiques.
Franchement, ça, il est comme ça, on va Messi, pas le... Messi qui arrive, qui fait juste une interview dans l'année et qui dit bon, la première saison, c'était pas incroyable, mais supporter parisien, je vais tout casser parce que si je suis dans cette maison, c'est que j'ai envie d'y être. Ça ferait du bien à tout le monde.
Je suis d'accord.
Je dis pas ce que
tu veux dire. Ce qui est marrant, paradoxal, Mickaël le soulevait, c'est le paradoxe, c'est que pendant très longtemps, il était idolâtré à Barcelone et il n'y avait pas cette relation d'amour avec le peuple argentin. Et désormais, il est à Paris et il a trouvé enfin l'amour en Argentine. Tu peux te mettre à sa place. Il en profite, effectivement. Il est enfin idolâtré dans son pays natal, et effectivement en club ça se passe un peu moins bien. Je comprends tout à fait le raisonnement de Mickaël, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je comprends la frustration, la déception des supporters parisiens. Ça, je pense que
il est pas à sa place à Paris.
Certainement.
Ok, en tout cas, c'était deux salles, deux ambiances. Hein. C'est vrai qu'à Paris et en Argentine, on a pu le constater ces derniers jours. Merci. Oui.
Est-ce que tu pourrais imiter Sharon Stone la semaine prochaine?
Alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre, sachez qu'en début d'émission, j'ai imité Jean-Pierre Foucault et que Jean-Pierre Foucault s'est invité dans le débat à 11h30 en disant « J'y sais, t'es bien sympa, mais tu vas arrêter tout de suite de m'imiter ». Merci Jean-Pierre, on t'embrasse et merci à Mickaël d'avoir été avec nous. Guillaume, sur le même sujet, qui fait énormément réagir sur Lionel Messi, nous appelle au 32-16. Salut Guillaume.
Oui, salut.
Et toi, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
Ah bah Stephen, et que j'adore ces blagues, j'adore tout. Mais écoute mon grand joueur de préau. Il a soutenu son nom sur la planète entière parce que tu l'as critiqué. Si c'est ça, c'est pas une légende.
Excuse-moi, j'ai pas compris.
Il a fait connaître ton nom
dans l'émission
sur la planète entière. C'est pas de la légende ça?
Ouais, c'est vrai, parce que j'avais critiqué Messi, je te rappelle l'émission là.
Ah bah, je m'en souviens très bien.
Guito et Stéphane Brun.
On était au Salon de l'Agriculture l'année dernière.
Oui, exact.
Tu te souviens?
Exact,
et tu avais dit que Lionel Messi, bah, qu'il était fini, oui, en gros, qu'il était cramé. Et donc, tu avais été repris partout.
Stephen Brun est connu maintenant.
Oui,
en
Espagne, ça me fait pas rêver d'être connu.
Non, mais il a touché à l'idole, quoi. Donc, et on touche pas à l'idole. C'est vrai qu'ils ont pas l'habitude de
J'ai touché en Espagne et ça a été repris en Argentine. Donc, les deux pays que j'ai dit où il était idolâtré et il fera rêver ad vitam aeternam. Moi, aujourd'hui, Messi.
Ça s'appelle une légende.
Ok, ça s'appelle une légende.
Non, mais si tu es bien d'accord, c'est une légende du foot. Mais il ne te fait pas rêver aujourd'hui, c'est ça que je veux dire.
C'est une légende du foot.
Mais on est bien d'accord.
Oui, oui, oui. Ouais. Bah, c'est une légende du foot. Là. Je ne vais, pas non plus passer pour un abruti à dire qu'il
y a un
petit.
Ah, voilà, merci. Voilà,
mais de là, il y a la légende qui me font rêver.
Non, mais de là, le débat,
rêver.
Voilà, le débat, c'est pas
dire que je me fais rêver actuellement. Je suis désolé, je ne suis pas en extase devant ce que propose Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain.
Je comprends totalement. C'est comme moi avec le basket. Le basket, on m'a toujours appris, on fait ouais, c'est facile de taper dans un panier. Mais quand je vois des Stéphane Curry, je fais non, c'est pas que du basket. Et moi, au niveau football, tu regardes un contrôle de Messi, tu fais la vista qu'il a, c'est pas possible. C'est un truc de ouf.
Et depuis sûr, même une passe à 2 mètres, c'est fabuleux.
Il a gagné une Coupe du Monde cette année à 34 balais. C'est pas possible. Enfin, je sais même pas combien. C'est impossible d'être comme ça.
Ouais, non, mais l'implication laisse à désirer. Enfin, c'est pas les mêmes.
Moi, j'ai kiffé le Paris Saint-Germain quand il y avait Valdo, Rail. J'ai serré la main de Rail à la mi-temps de PSG Le Havre quand j'avais mon épaule.
Sur du Chabraled.
Il avait une grande main. Paris Saint-Germain, j'ai toujours kiffé. Mais là, Messi est au Paris Saint-Germain. Kiffé.
Mais t'es supporter du PSG, toi?
Non, Monégasque. Moi, je suis Monaco à
200%. Ah, d'accord. Ce qui est bien,
c'est qu'il y a toujours
des places libres.
Toujours les mêmes blagues sur les
Non, mais pardon.
Je suis content qu'il y ait une. Mais par contre, j'habite au-dessus de Nantes, donc ça n'a rien à voir. Mais je suis pour le jeu offensif et j'adore Monaco tout le temps.
D'accord, très bien. Jeannin, j'allais parler du basket, la Roca Team à Monaco, ça t'intéresse pas?
Non, basket, j'ai appris que mon fils, il est grand et puis il commence à toucher un petit peu. Je suis obligé, merde. Mais non, c'est
bien. Après, l'avantage que ton fils fasse du basket, c'est que le samedi matin, le dimanche matin, c'est au chaud dans une salle.
Bah, t'inquiète pas, je vais amener mon petit au rugby et puis mon deuxième au hand et puis basket. Non, il y a son pote qui va être bon, je pense. Et puis voilà quoi.
Très bien.
Et non, putain, il n'est pas aussi fermé ce gars-là, c'est pas possible.
Attention, Guillaume, le vocabulaire, j'ai entendu deux gros mots. On fait attention, surtout quand on a des enfants. On fait attention.
T'as engueulé par le patron après.
Ben oui, les copains, disputer, vous faites attention. Disputer. Guillaume doit faire attention. Merci de nous avoir appelés au
32-16.
Bravo,
et à Guillaume.
Bientôt sur RMC. Merci, mes GG, pour cette émission ce matin.
Christophe.
Merci, David.
Simon. Charleston, n'oublie pas. Hein.
Et Stéphane. Oui.
Dis-nous au revoir à Patrick Sabatier.
Tu veux plutôt Jean-Pierre Foucault?
Bon, vas-y, Jean-Pierre Foucault.
Non, je lui ai dit que j'arrêtais. Je fais qui?
Patrick Sébastien.
Oh, c'est génial! C'est génial, il est 11h56. On se retrouve dans quelques instants, vous allez voir. C'est super, il y aura la Dream Team pour les paris RMC. C'est
bien
génial.
D'être animateur.
C'est le petit bonhomme.
C'est super, restez avec nous, salut. Ciao, ciao.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.